Écho d'économie, Georges Kamoudjova.
Interview et reportage au rendez-vous comme toujours et l'équipe toujours présente, Jocelyne Moussaoupondé, nous apporte les nouvelles.
Des infos d'ailleurs et du pays. Regard ce soir vers le Bas-Congo pour évaluer le retour au souffle de l'Onatra.
Et nous appellerons donc Guiroje Nyampala dans 3 minutes depuis Matadi, mais nous serons aussi au Katanga où les petits miniers commencent à revenir timidement. Et l'invité à suivre dans 10 minutes est Adamu Labara, représentant de la Société Financière Internationale en RDC, la SFI qui 3,7 millions de dollars à la Robank pour soutenir les femmes entrepreneurs. Les nouvelles au pays d'abord. Jocelyne, la Gécamines met fin à la location de locomotives.
Elle vient de payer 4 locomotives pimpant neuves pour le transport de ce minerai. La présentation officielle de ce matériel roulant a eu lieu à Lubumbashi ce jeudi. Une acquisition qui permettra de résoudre les multiples difficultés liées au transport de minerai. Le coût de ce matériel est de plus de 5 millions de dollars américains. Avant, la Gécamines louait des locomotives en Afrique du Sud.
Et révisitation des comptes. Minier, le gouvernement n'attendra pas 6 mois pour les 6 grandes firmes restantes.
Le cabinet décidera le plus vite que possible parce que ce sont des questions économiques importantes pour le pays, déclare aujourd'hui le vice-premier ministre en charge de la reconstruction. Émile Bongeli, cité par l'agence de presse britannique Reuters, tente de raccourcir le délai de 6 mois avancé par le vice-ministre des Mines il y a 3 mois à la même agence. Parmi les 6 contrats figure Freeport McMoRan avec Tenke Fungurume Mining, Anglo Gold Ashanti pour l'or en Ituri, First Quantum qui exploite le cuivre à la frontière avec la Zambie. Ces géants n'auraient pas proposé mieux en ce qui concerne l'augmentation des pas de porte et à la hausse de la part de l'État dans les projets. Elles devront retourner dans 6 mois avec des propositions acceptables, a confié à l'agence Reuters Victor Kassongo Chomari, le vice-ministre des Mines.
Peut-être un début de fin sur les difficultés des carburants au Kassai Oriental.
Au moins 120 mètres cubes de carburant en provenance de Ilebo sont arrivés aujourd'hui. Tout ce carburant est déjà entreposé dans les installations de SEP Congo Mweneditu. Les camions citernes l'acheminera sur Mbujimayi. Raymond Gandhi, directeur de la SNCC Mweneditu, relève également que plus de 700 mètres cubes de carburant attendent à Ilebo. L'acheminement vers le Kassai oriental. Les litres d'essence au Kassai se vend au double du prix officiel.
La nouvelle économique au bout du fil.
Direction Matadi où l'on retrouve Guy Roger. Les agents Onatra au Bas-Congo ont repris le travail vers la mi-journée. En direct donc depuis Matadi, Guy Roger, c'est toute l'économie de Boma, de Moanda et de Matadi qui s'est réveillé aujourd'hui.
Oui, Georges Kamoudjova, les 6 vendeurs de cartes, les restaurateurs, les déclarants de toutes ces activités qui tournent autour du port se sont réveillés en début d'après-midi. Mais il faudra du temps pour que justement les secteurs touchés récupèrent le manque à gagner. Et outre les services parallèles œuvrant au port comme l'OFIDA, l'OCC, qui ont été paralysés par cette grève, il y a aussi d'autres activités formelles et informelles qui dépendent du port, qui ont été affectés. Nous nous sommes intéressés, Georges, à des secteurs que d'aucuns qualifient de moins importants, mais qui font vivre des familles entières.
Et quels sont ces secteurs qui sont atteints après 2 semaines de grève?
Il y a les petits commerces qui s'effectuent en dehors du port de Matadi, comme les petits restaurants. La plupart d'entre eux ont disparu. Une restauratrice avec qui nous avons échangé a indiqué que leurs recettes ont fortement baissé à cause de cette grève. Quand le port fonctionnait normalement, dit-elle, elle réalisait 30 000 francs congolais de recettes et à ce jour, affirme-t-elle, elle n'a même pas 7 000 francs congolais. Donc il y a aussi les revendeurs de cartes prépayées qui sont également affectés par ces 2 semaines de grève pour ne citer que cela.
Alors dès lundi, ils pourront redémarrer normalement?
Oui, mais certains auront du mal, les hôteliers du centre-ville de Matadi qui accueillent les importateurs, les déclarants, les commissionneurs en douane, doivent maintenant suivre tous ces gens pour qu'ils payent leurs dettes. Avec la grève, ces opérateurs et négociants, Georges, ne payaient plus leurs frais d'hôtel, car ayant épuisé tout leur argent.
Est-ce le cas dans d'autres villes portuaires comme Boma ou Moanda?
Les conséquences de cette grève ont été vastes ici à Matadi, car 70% des Matadiens ont un lien direct avec le port. À Moanda, Alexandre Massissa, président de la FEC locale, a affirmé que les opérateurs économiques de Moanda n'ont pas été touchés par cette grève car leurs activités ne sont pas liées au port de Banana. Cependant, les matériels de la société pétrolière Perenco ont été bloqués en haute mer à cause justement de cette grève à l'ONATRA, Georges.
Merci beaucoup Guy Roger, je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Matadi, bonne soirée.
Merci Georges, bonne soirée à vous également.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Jocelyne Moussa Opondé.
Jocelyne, Citigroup passe au vert après un bénéfice $1,5 milliard.
C'est le meilleur résultat de la banque américaine depuis le début de la crise financière. Citigroup a été largement renfloué par l'État fédéral après avoir fait une perte massive de 17 milliards au quatrième trimestre 2008.
Et Sony Ericsson supprimera des postes.
L'entreprise avait déjà annoncé en juillet la suppression de 2000 emplois. Son chiffre d'affaires a plongé de 35% au premier trimestre à près de 2 milliards d'euros et sa perte avoisine de 10%.
Et terminons par les matières premières.
Le cuivre ne baisse pas la garde. La tonne termine la semaine au-dessus de $4,700. Le brut du pétrole se maintient à $53 avec une tendance à la hausse. L'or termine la semaine à $860 l'once avec une tendance à la baisse.
Merci beaucoup Jocelyne pour ces nouvelles économiques internationales.
Merci.
Et Écho d'économie sur Radio Capi qui va tout de suite entrer dans sa seconde partie.
Écho reportage.
Le reportage de ce soir nous amène au Katanga où l'on observe un retour progressif à Kolwezi très précisément. C'est à près de 300 km de Lubumbashi. Un retour progressif des entreprises qui achètent les minerais exploités par les creuseurs artisanaux. Ces entreprises, rappelons-le, avaient suspendu les activités à cause de la chute du prix du cuivre sur le marché mondial. La montée du prix de ces minerais cette semaine, les deux semaines qui ont précédé, est une bonne nouvelle pour ces entreprises qui tentent maintenant de renouer avec leurs activités. Paulin Munanga pour le reportage.
La ville minière de Kolwezi, surnommée poumon économique du pays, regorge plusieurs carrières artisanales dans lesquelles des milliers de creuseurs y travaillent sans cesse. C'est notamment le cas de la Gécamine qui a autorisé aux creuseurs de travailler dans ces concessions comme Kapata ou Izetka pour des raisons humanitaires. D'autres carrières que l'État congolais a octroyées aux creuseurs sont fonctionnelles. C'est notamment Kawama, Kalumbwe ou Kisankala. À l'avènement de la crise mondiale, les grandes entreprises minières ont fermé. Les principaux dépôts des Chinois, Indiens, Pakistanais ou Libanais sont restés obsolètes. La grande société Gécamine, qui achetait les produits chez les creuseurs artisanaux travaillant dans ces concessions, a cessé d'acheter les minerais. Les quelques acheteurs qui sont restés sont entre autres Somika ou Bazano. Actuellement, avec le prix du cuivre qui remonte petit à petit sur le marché mondial, ce qui a un impact positif sur le prix d'hétérogénite. Théo Mafotinga, président des exploitants miniers artisanaux du Katanga et Mac Kolwezi.
Le prix avait sensiblement baissé par rapport à ce qu'on avait connu. Parce qu'actuellement, la référence que j'ai à Kawama, une tonne négocie à 60 000 francs. Donc, ça permet tant soit peu de maintenir un certain équilibre pour la survie de nos amis creuseurs.
Les dépôts et entreprises qui sont partis reviennent petit à petit.
Disons qu'il y a la maison Rubaco qui avait fermé qui revient, et la maison Somika qui est là, et tant d'autres petites maisons, je n'ai pas la liste, qui reviennent quand même. Mais les traditionnelles maisons, c'est Bangano par exemple, Somika qui tient quand même le coup au niveau de Kolwezi, Chemaf qui avait fermé. J'ai appris que Benimash Chemaf est venu la rassembler des négociants. Ils voudraient encore rouvrir ce dépôt et commencer à acheter.
Pendant toute cette période de crise, les creuseurs n'ont pas bougé des différentes carrières. C'est au contraire les partenaires qui se sont évaporés. Des précisions avec Théo Mafo.
Écoutez, le creuseur, lui, n'a jamais abandonné la carrière. C'est plutôt les partenaires qui l'ont abandonné. Je prends l'exemple de Kawama. À un moment donné, il n'y avait plus rien avec Sonika. Du côté d'un carré qu'on appelle le carré de Mona Mining, là-bas, Mona est déjà parti. Quand le creuseur est tombé sur un filon riche, ça crée l'engouement, c'est pratiquement toute la ville de Kolwezi, les gens qui venaient de Likasi, affluaient du côté de Kavama. Mais il serait mieux à ce qu'au niveau supérieur, il y ait un encadrement efficient, un encadrement rationnel.
Pour les négociants, la hausse du prix du cuivre sur le marché mondial devrait aussi pousser les acheteurs à revoir leur prix à la hausse. Serge Mukalai.
Le prix a augmenté, mais pour nos partenaires ici qui viennent, souvent les Chinois, pour augmenter le prix, ils doutent un peu parce que ça bouge. Ils doutent à augmenter le prix, c'est un peu ça.
Le véritable salut pour revoir la ville de Kolwezi se réveiller de son sommeil, c'est de pousser la population à faire de l'agriculture, a conclu un habitant de Kolwezi.
L'entretien de ce soir.
L'invité de l'économie ce soir est Adamu Labara. Vous êtes le représentant de la Société financière internationale en RDC. La SFI est un groupe de la Banque mondiale. Et votre vice-président Thierry Tano, qui vient d'achever d'ailleurs aujourd'hui une visite de 5 jours à Kinshasa, a signé un octroi de 7 millions de dollars à la Rawbank. C'est pour soutenir les petites et moyennes entreprises congolaises. Adamu Labara, est-ce du concret?
Oui, c'est du concret. Donc, ces 7 millions seront décaissés une fois que la Rawbank nous en fera la demande.
Comment alors sélectionner les PME?
Justement, c'est une facilité qui a, au-delà de la ligne de crédit, il y a une assistance technique également à la Rawbank avec le déploiement d'un conseiller résident. Le conseiller résident va aider la Rawbank à mieux comprendre les PME et à donc développer une stratégie pour les viser, pour les sélectionner et pour leur accorder les prêts ou l'appui dont elles auront besoin.
Alors, le vice-président de la Société financière internationale a parlé particulièrement d'un appui aux femmes entrepreneurs. Oui. C'est de la discrimination positive, ça.
C'est pas la discrimination positive, mais vous savez que les femmes entrepreneurs ont des problèmes pour l'accès au financement. C'est-à-dire que si déjà les PME, en général, ont des problèmes, c'est que les problèmes des femmes entrepreneurs sont encore plus importants. Donc pour nous, c'est extrêmement important d'appuyer et de nous assurer que les femmes entrepreneurs ont accès aux services financiers.
Et donc vous estimez que les femmes sont les mieux placées pour gérer par exemple les PME?
Eh bien, nous savons par expérience que les PME gérées par les femmes sont en général très bien gérées. Lorsque vous parlez aux banquiers, aux institutions de microfinance, ils vous diront que leurs meilleurs clients ou leurs meilleures clientes, c'est les femmes.
Mais est-ce que vous pensez qu'elles seront très combattantes pour arracher les financements qui leur seront octroyés?
Nous le pensons parce que le programme aussi va viser à les former, leur donner les outils pour bien présenter des business plans. Vous savez, les banques ont certains standards quand il s'agit de présenter des business plans. Donc, le programme va également les aider à cela. Et avec le business plan, elles pourraient aller à la Rawbank ou ailleurs. Et ensuite, un deuxième volet de l'appui sera au niveau de la gestion même des entreprises. La gestion de la trésorerie, la gestion des ressources humaines, etc., etc. Donc, c'est une combinaison de tous ces appuis que nous essayons de mettre en place pour voir décoller les petites et moyennes entreprises, particulièrement les femmes entrepreneurs.
Alors, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, peut-être pour terminer, pourquoi le choix sur Rawbank aujourd'hui?
Rawbank, nous avons discuté avec plusieurs banques. Nous avons essayé de comprendre celles qui ont dans leur stratégie les petites et moyennes entreprises. Et il fallait commencer par une. Donc ça a été la Rawbank. Si vous vous souvenez, l'année dernière, nous avions déjà signé avec eux une facilité de garantie pour le commerce extérieur. Donc il a été très facile, puisque c'était une banque que nous connaissons, de mettre en place cette ligne. Mais nous avons 3 autres banques avec lesquelles nous allons signer dans les mois à venir.
Adamu Labara, merci beaucoup de nous avoir parlé dans Écho d'économie.
Je vous remercie.
Je rappelle que vous êtes le représentant de la Société financière internationale en RDC, à Kinshasa principalement. Écho d'économie a été réalisé par Berry Luchaka, Daniel Tambinzoni, Jocelyne Moussaoué et Nazar Koko. Nous ont prêté leurs mains sous la supervision de Nicole Ngaka. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.